30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, 30 minutes chrono, on est déjà à la quatrième de cette série d'émissions sportives. Un petit sommaire, la chronique de la baballe carrée, qui maintenant est récurrente. Cette semaine, après le foot qui marchait sur la tête à coups de 2 millions, la chronique est consacrée à l'autre sport phare hexagonal, la balle, mais elle est ovale, les idées aussi. Psychodrame sur là, ou plutôt sur les coupes européennes. Ensuite, j'aurai le plaisir d'avoir un invité, alors bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors 30 minutes chrono recevra Rodolphe Perriot. Je n'écorche pas votre nom.
Non, c'est très bien.
Alors c'est le directeur sportif, on peut dire, du Montpellier Beach Volley.
C'est ça, directeur sportif et entraîneur du Montpellier Beach Volley.
Super, et c'est l'automne, mais cela sent encore un peu la plage. Donc le beach volley redevient un sport de plus en plus pratiqué. Et en 2016 devrait être son année, car les JO se dérouleront au pays où ce sport est aussi le sport roi, le Brésil. Nous parlons de cela, entre autres, avec notre invité. Enfin, pour terminer l'émission, ce seront les résultats, les échéances, quelques mots, etc. de nos surdoués de l'agglomération survitaminée. Chronique de la baballe carrée. Alors avant d'attaquer la chronique, quand même, faut savoir que vous avez entendu un morceau qui s'appelle La Plage. C'était aussi pour notre invité qu'on va recevoir après cette chronique. Et donc on va parler de beach volley. C'était un petit peu nostalgique, on va dire c'est normal, c'est l'automne. Hein, c'était un peu l'automne. Hein. Alors pour cette chronique de la baballe carrée, ce ne sera pas une fois la baballe ronde, mais celle qui est ovale. Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur le psychodrame des coupes européennes. La plus célèbre est née avec une hypocrisie, on l'appelle la H-Cup, parce que le principal sponsor est une marque de bière, qui commence par un H, qui ressemble à des poteaux de rugby et dont la couleur dominante est le vert, mais dont on ne peut pas dire le nom. L'autre coupe, la petite, s'appelle Challenge Européen, et tout le monde s'en tape ou presque. Le rugby professionnel a grandi très vite, à l'ombre du sport monstre pratiqué par les manchots. Il a vite appris à penser tiroir-caisse plutôt que valeur supposée bien supérieure à celle, il est vrai, indéfendable des footeux. Course à l'armement, transfert, industriels investissant des sommes de plus en plus importantes, stars venues des antipodes, d'Afrique du Sud, des îles britanniques et du reste de la planète, et compétitions de plus en plus contraignantes et multiples. Alors que se passe-t-il donc dans le monde de l'Ovalie? Et ça s'enflamme pour cette compétition continentale, c'est devenu indésirable parfois. Tout d'abord les rythmes. Les rythmes des matchs sont indéniablement devenus infernaux. Entre les championnats nationaux, avec tout en haut le très exigeant top 14, les matchs internationaux pour les nations, et donc les coupes européennes. Il faut avoir des robots comme gladiateurs, ou alors avoir les moyens de s'offrir deux équipes opérationnelles dans chaque club. Paul Gauze est le président de la Ligue nationale de rugby. À ne pas confondre avec la fédération, avec son homologue anglais, ils ont décidé de ne plus participer à la H-Cup, mais pas pour reposer les joueurs, car ils veulent créer la Rugby Champions Cup. Pourtant, évidemment, il y a un problème. Car juridiquement, comment contourner l'ERC ? La fédération française, d'ailleurs, a immédiatement rappelé que la Ligue ne pouvait organiser de compétition internationale en dehors du cadre de la fédération française de rugby et sans un accord préalable. Les diffuseurs, eux, attendent, mais ils s'impatientent, car ils sont devenus incontournables. France Télévisions, Canal+. Tout ceci devrait retomber quand le problème du conflit sera mis sérieusement sur la table. Il s'agit d'argent et de répartition des recettes. Les grosses ligues ne veulent toujours plus, en veulent toujours plus, et il est vrai, les charges sont exponentielles. La Champions League à la sauce rugby, ce serait cela. Ça aurait des qualifiés automatiques, les trois premiers des trois grands championnats européens qui sont le top 14, le championnat d'Angleterre et la Ligue Celte, quoique la Ligue Celte traîne les pieds. Plus le vainqueur du deuxième niveau et le vainqueur de l'édition précédente. À l'heure actuelle, il y a 24 clubs qualifiés pour la H-Cup, donc vous voyez, on diminuerait considérablement le nombre de qualifiés. Les droits seront répartis en trois tiers pour les ligues majeures de la compétition. Et la compétition elle-même devra se terminer avant les phases finales des championnats locaux. De bonnes idées, certes, mais que cache surtout ce souci de ramasser la vise ? La Fédération internationale, l'IRB, a exhorté les différentes parties à trouver un accord tout en n'oubliant pas de rappeler aux contestataires que l'IRB était la seule à pouvoir donner son accord pour l'organisation d'une compétition internationale. La Fédération internationale soutient donc encore l'ERC, organisatrice des Coupes européennes. L'IRB, par la voix de son président Bernard Lapassé, veut bien nommer un médiateur, mais rappelle qu'un processus est en cours pour que les pays se retrouvent dans cette Coupe d'Europe. Conclusion. Provisoire. Tout le monde se met autour d'une grande table lors d'un sympathique banquet et alors des toasts, on s'arrange entre gens de pouvoir. Et pourquoi pas prendre le modèle de la NBA avec, vous savez, les franchises et vogue le European Championships en circuit fermé et pour la planche à billets. Ah, il est vraiment loin, le rugby des clochers. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, j'ai mon invité devant moi, c'est Rodolphe Perriot, il est directeur sportif et professeur Montpellier Beach Volley. Alors, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, nous allons parler de votre sport, bien sûr, de son développement local, mais aussi de son impact grandissant. C'est un sport qui prend de l'importance depuis, on va dire, combien de temps ? Une quinzaine d'années, à peu près, on pourrait dire ça ?
Oui, c'est à peu près ça, ouais. Depuis le milieu des années 90, et presque
c'est,
20 ans.
C'est quand c'est devenu un sport olympique aussi, ça a peut-être été boosté.
Tout à fait,
hein, ça
booste. Tout à fait, ouais, ouais. Tout à fait.
Alors, on va surtout s'intéresser, bien sûr, au Montpellier Beach Volley. Alors, sur votre site, ça commence par licencié ou non, quel que soit votre âge, votre niveau et votre sexe, avec ou sans partenaire, que votre but soit de vous initier et de progresser selon vos objectifs ou d'appréhender la compétition, toujours dans la convivialité et le plaisir, le Montpellier Beach Volley, vous êtes ouvert. Je trouve que c'est une très bonne introduction. Alors, parlez-nous un peu de ce club, des différentes sections, enfin, parlez-nous de ce dont vous avez envie de parler.
Eh bien oui, c'est une très bonne introduction en fait parce que je peux décrire le club comme une pyramide et on a évidemment le très haut niveau et on a notamment les équipes de France masculine et féminine qui s'entraînent au club, mais on a aussi un centre élite du club masculin et féminin, un sorte de formation des jeunes et aussi une très grosse part de loisirs, de gens qui font du loisir et aussi des amateurs qui participent au championnat de France. Donc on a en fait toute une pyramide donc, qui va en rétrécissant des débutants, ça concerne à peu près une centaine de personnes.
Et à partir de quel âge vous recevez les beach volleyeurs ?
Alors je sais que ça paraît assez incroyable, mais à partir de 4 ans, en fait on fait l'éducation au ballon, sur le sable, et finalement on essaye d'apprendre aux enfants, on leur apprend à apprendre et on leur apprend à jouer avec le ballon, à savoir faire des choses, à savoir faire des passes, à savoir faire des manchettes, à savoir attaquer dans un ballon déjà. Plein de choses qu'on peut faire à partir de 4 ans, même si avec les enfants de 4 ans, sur une heure de cours, on fait souvent 20 minutes, une demi-heure pour ceux qui ont le plus envie et une demi-heure de château de sable avec eux.
Hein. Oui, et puis je m'en doute que les filets doivent être un peu plus bas parce que sans ça, ils auraient bien du mal. Déjà que personnellement, je trouve que c'est très haut ces filets de beach volley.
Oui.
Ça demande vraiment beaucoup de ressources au niveau physique à votre sport.
Tout à fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on ressort vraiment lessivé après les sessions. Et pour les enfants de 4-6 ans, en général, la hauteur du filet, c'est la hauteur du filet de tennis.
Ah d'accord. Mais pour revenir purement à cette pratique, c'est à la fois donc, du volleyball en quelque sorte.
Tout à fait.
Sport qui est bien représenté à Montpellier aussi, on est dans l'élite au niveau
Exactement.
Du volleyball. Et qui est bien représenté en France, puisqu'ils ont été en quart de finale, je crois, du dernier championnat d'Europe, là, nos volleyeurs nationaux, battus par la Russie, qui est championne d'Europe en titre, donc c'est quand même sacré niveau. Mais votre sport, lui, en plus donc d'avoir toutes ces techniques de volleyball, il exige quand même un bas du corps tout à fait particulier parce que marcher dans le sable, c'est déjà difficile. Mais alors sauter dans le sable, c'est une autre histoire. Hein.
Un bas du corps et un gainage. Mmh. Pour être bien équilibré, ça demande des qualités particulières. Et au volley en salle, en fait, on va vraiment vers des tailles de plus en plus importantes. Et il y a des joueurs, on arrive à avoir des bons joueurs qui sont habiles, qui sont techniques, qui vont jusqu'à des tailles de 2,5 m. Et sur le sable, souvent, on va avoir une taille plus petite chez les joueurs parce que plus on est grand, plus c'est difficile d'être stable et encore plus difficile sur le sable.
Plus d'explosivité peut-être, hein, c'est ça.
Il faut plus d'explosivité, il faut plus de stabilité sur les jambes et plus les jambes sont longues, plus c'est difficile d'être stable sur le sable.
Alors vous nous rassurez, il n'y a pas besoin de faire plus de 2 mètres pour aller jouer au bout du volley alors.
Non, justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que pour atteindre le plus haut niveau en beach volley, il n'y a pas besoin des mêmes qualités physiques qu'en salle ou en salle pour atteindre l'équipe de France. Physiquement, ça devient très très exigeant parce que au niveau international, ça devient, comme vous parliez du rugby, la professionnalisation, voilà. Il y a d'autres pays où c'est en train de se professionnaliser. Le volleyball, c'est déjà professionnel depuis pas mal d'années, mais ça devient de plus en plus exigeant et on arrive à des joueurs qui sont vraiment très grands et très physiques.
Ouais. Et y a, là aussi, le Brésil est une des nations du volleyball, hein. Ça, c'est ce que je disais.
Tout à fait, qui a perdu contre la Russie aux derniers Jeux Olympiques.
Voilà. Et donc, le beach volley sera à Rio, ça doit être super quand même, ça doit faire plaisir. Vous aurez peut-être l'occasion d'y aller, vous, à Rio, même en tant que spectateur. Hein,
En tant qu'organisateur.
Je
vais pas dévoiler toutes mes cartes.
C'est bien.
J'espère, ouais.
Alors dis donc, le beach volley, c'est sur la plage, mais c'est pas que sur la plage, parce qu'il y a un hiver quand même. On n'est pas au Brésil, on n'est pas à Rio de Janeiro, là, on est à Montpellier. Donc, il y a quand même des conditions climatiques qui font que il faut des salles d'entraînement, et j'imagine à l'intérieur. Alors, parlez-nous de vos centres d'entraînement.
Alors, dans notre centre d'entraînement, en fait, on a 4 terrains extérieurs avec du sable de rivière blanc très très fin, sur lequel on peut se jeter sans risque. Et sur lequel il est assez exigeant physiquement de jouer, mais un vrai plaisir parce que voilà, on peut se jeter sur les genoux, sur les coudes, presque à la tête la première sans se faire mal.
Ça, c'est le sable officiel, c'est ça, non ?
C'est du sable officiel, tout à fait. C'est ça. Et on a aussi 2 terrains intérieurs, donc dans un gymnase, avec le même sable. Et on joue dans les mêmes conditions à l'intérieur, sauf qu'il n'y a ni soleil ni vent, mais avec des spots lumineux comme on ferait n'importe quel autre sport de salle.
Ouais, d'accord, mais ça c'est bien. Et c'est à quel endroit, Montpellier sans...
Alors ça se situe à La Rose, c'est entre près d'Arène et la Nouvelle Mairie.
D'accord.
Arrêt de tram La Rose sur la ligne 4.
Et on peut vous... si les gens qui sont intéressés peuvent se rendre directement et que vous contactent, le plus simple c'est d'aller visiter le site, je suppose.
Tout à fait, vous pouvez visiter le site www.montpellierbeachvolley.com. .fr.
Voilà, ouais,
.fr, Montpellier Beach Volley.
Voilà, vous tapez,
Beach Volley, vous tombez souvent sur le Montpellier Beach Volley. Ouais. Et sinon, vous pouvez contacter le secrétaire au 06 21 64 61 30. Voilà, non, je me suis encore trompé, c'est 60.
Bon, écoutez, 64, le plus 30. Simple, vous inquiétez pas, on n'a pas le temps à la radio en général, oui, de prendre un stylo et de noter les numéros de téléphone. Tout donc le plus
fait.
Simple, c'est d'aller
Beach
sur
Volley.
Le site.
Voilà. Alors, sur Google.
Il y a une autre chose que j'aimerais bien que vous nous parliez, c'est un peu les règles et les différentes équipes, parce que en général, nous ce qu'on voit, c'est deux personnes contre deux personnes, mais il y a pas que ça. Hein.
Si, il y a que ça.
Ah bon, d'accord. Alors,
vous voyez. Hein, bon, ok, je. Comment dire, je mens un peu. On va dire, ça m'arrange. En fait, dans le beach volley, sport olympique, ça se joue à 2 contre 2. Après, il y a plein d'autres sports de plage qu'on appelle volley sur sable, qui peuvent se jouer à 3, à 4, à 6 même. Et ça ne s'appelle pas beach volley. Non. Le beach volley, ça joue à 2 contre 2. C'est très particulier. Donc, comme vous avez dit, c'est toujours du volleyball. Après, c'est un sport qui, sur le plan mental, est beaucoup plus individualiste que le volleyball, qui est un sport d'équipe. Et en fait, dans le beach volley, on peut changer de partenaire à chaque tournoi.
Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'équipe, forcément.
Non, voilà. C'est un sport individuel. Les points sont comptés individuellement.
Il y a un classement mondial ou français, etc.
C'est ça. Individuel, ouais. Exactement. Et c'est comme le tennis en double, en fait.
Ah, d'accord. Oui, je vois, tout à fait. Oui, c'est la comparaison et c'est peut-être la meilleure, en
oui,
effet.
Oui, c'est comme... la meilleure. C'est même au niveau tactique, dans le jeu, c'est un sport où on peut pas avoir, il n'y a pas de remplacement. On est à 2. Il n'y a pas de coach. Et on se trouve dans des situations où aucun des deux joueurs peut craquer.
Ah ouais, c'est ça. Il ne peut pas y avoir un petit élément faible comme dans une équipe. Quand on est 5 ou 6, c'est beaucoup plus facile. Il y en a un qui n'est pas très bien. Bon, ce n'est pas grave, il est compensé par son voisin.
Au beach volley, c'est difficile de compenser. Et on doit avoir 2 joueurs qui, dans leur tête, sont prêts à aller gagner chacun de leur côté. Et aussi, évidemment, en collaboration. Et
bien sûr, je me doute, il doit y avoir des paires qui se forment quand même, qui sont plus régulières.
Évidemment, et pour la qualification olympique, il faut rester avec le même partenaire. Donc ça, c'est un processus qui commence dès la fin de l'Olympiade précédente.
D'accord.
Et dès 2015, dès les premières compétitions internationales 2015, les points commencent à s'accumuler pour l'équipe. Et les 16 premières équipes au niveau mondial, avec 2 équipes par pays maximum, peuvent se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.
C'est exactement la même chose que pour le tennis. Les doubles ne sont pas forcément de la même nationalité. Mais pour les Jeux Olympiques, c'est ça. Quand on joue les tournois de beach volley, on peut très bien avoir un Finlandais avec un Brésilien, pourquoi pas.
Pas au niveau international.
Mais voilà. Après, c'est toujours les deux mêmes du même pays, d'accord ?
C'est ça. Au niveau international, là, par contre, au tennis, c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés de jouer ensemble avec 2 joueurs de la même nationalité. Au beach volley, si, c'est les fédérations nationales ont encore gardé un gros contrôle là-dessus et n'autorisent pas à ce que 2 joueurs de nationalités différentes puissent jouer ensemble au niveau international.
D'accord. Et vous organisez, vous, tous les ans, une rencontre internationale, je crois, de côté de Palavas, c'est ça ? Ou à Montpellier ? Dites-moi un peu. Là.
Alors, oui, vous avez entendu parler du Palavas Beachmasters.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu parler.
Mais à la base, le Beachmasters, c'est une compétition qui a été créée à Montpellier. Donc sur la comédie depuis 2005.
Ça, on a vu ça, ouais,
voilà. De 2005 à 2011 sur la comédie. En 2012, nous étions à Port-Marianne. Et en 2013, nous étions à La Rose, donc au club, où nous avons organisé un tournoi satellite de la CEV, c'est la Fédération Européenne, avec 80 équipes européennes des deux genres, donc 40 équipes féminines et 40 équipes masculines à peu près. Et des équipes françaises qui ont bien marché, notamment chez les garçons, puisque les garçons ont fini troisième.
Voilà. Et donc, sur la comédie, ça, c'est un grand succès. Hein. Moi, je suis passé plusieurs fois. J'ai vu qu'il y avait vraiment du monde. Vous avez des spectateurs.
Il y avait du monde.
Ah, il y avait ça. Ça
c'est
ça...
jusqu'en 2011, nous étions sur la comédie.
Voilà, c'est ça. À la comédie, ça avait vraiment marché. Mais après, vous avez préféré donc, exporter ou c'est pour des raisons autres?
C'est pour des raisons autres.
Wow,
c'est
pour des raisons autres.
Ouais, bah sur la comédie, c'est pas forcément des plus le plus facile.
Bah oui, surtout.
Là, pour l'organisation du tournoi du Beachmasters, comme c'était dans le format de cette année, avec un tournoi satellite, où on avait besoin de quatre terrains, et encore, on était un peu au juste. Il faudrait plutôt 5 terrains pour organiser un tournoi de ce calibre.
Bon, bah écoutez, on est bien loin des clichés. Vous savez, alors le beach a toujours les clichés. On pense que c'est un sport sexy parce qu'il y a des jolies filles ou des jolis garçons, d'ailleurs, hein, après tout.
Ça peut arriver
chacun,
aussi, ouais.
Chacun sa coup. Ça, sa coup. Alors, on est très loin de ça, en fait. Ça, ce sont des clichés. C'est un
tout
peu,
à fait.
C'est des clichés.
Ah, dans notre club, oui, vraiment. Oui, on
voilà,
est vraiment loin de ça, ouais.
On est vraiment loin de ça. Et c'est vraiment un sport, comme on disait, très exigeant, qui demande beaucoup d'entraînement.
Tout à fait. Énormément de conditions physiques. Le sport en lui-même déjà apporte beaucoup de conditions physiques puisque pour se déplacer sur le sable, rien que pour marcher, rien que pour nous les entraîneurs, c'est déjà une grosse épreuve physique de se déplacer pendant plusieurs heures sur le sable pour entraîner.
Et dans votre élite, vous avez quelques joueurs de très connus, je suppose. Moi, j'ai pris quelques noms, mais comme je ne connais pas, je ne veux pas dire... c'est difficile d'en citer que quelques-uns.
Non, ça va, je peux en citer quelques-uns. Il y a une hiérarchie, comme dans la pyramide. Donc, on a Jean-Baptiste Daguerre et Edouard Rolandson, voilà. Qui sont tous les deux en équipe de France de beach volley. Et chez les filles, je ne vais pas dire de bêtises, mais...
Il y a Mélinda Adelin, c'est
Mélinda
ça
Adelin et Laura Longuet, qui sont licenciées au club aussi, voilà. Et qui sont en équipe de France. Après, même les joueurs et les joueuses qui ne sont pas licenciés au club s'entraînent quand même au club, puisqu'ils sont en équipe de France et que le Centre international du beach volley est à Montpellier.
Alors voilà, j'espère qu'avec cet invité, vous avez eu envie de vous renseigner un peu plus sur ce sport, qu'un sport donc en plein développement, qui prend de l'importance et qui se médiatise. Alors, on était ravis de recevoir Rodolphe avec nous, mais on va laisser une petite pause musicale et puis après, on se reparle une petite minute. Hein. Le lancer du CD.
Tape loop keeps on turning round forever. Patience, love is coming round for your pleasure.
Alors, de retour avec notre invité. Alors, le choix de la musique, et c'est l'invité qui le fait pour la troisième petite pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez choisi?
C'est Mortiba, c'est un groupe qui a marqué mon adolescence et ma jeune vie d'adulte.
Alors, évidemment, vous n'êtes pas à la télévision, donc évidemment, Rodolphe, il n'a pas 70 ans, puisqu'il saute encore très bien sur la plage, hein, j'imagine. vous êtes un jeune adulte, on peut dire.
Oui, j'ai 33 ans. Ouais.
Voilà, 33 ans, c'est l'âge des entraîneurs, ça, en général. Hein,
c'est ça.
Hein, on commence, on a la petite trentaine, et puis là, il faut commencer à se reconvertir, parce que le sport de très haut niveau, c'est dur. Hein.
Ça fait déjà 3 ans, mais je n'ai pas été sportif de haut niveau.
Non, vous avez toujours pratiqué le volley, mais sans être dans les équipes de France, par
exemple. Non, j'ai fait de longues études avant, et j'ai fait une reconversion professionnelle. Hein.
D'accord, très bien. Alors, écoutez, merci d'être venu d'abord. Hein.
Et puis, je vous remercie de m'avoir invité.
Voilà. Et puis, si vous avez des informations à nous communiquer, vous n'hésitez pas à le faire, à vous m'envoyer un petit message, je le dirai sur cette antenne. Donc maintenant, on va peut-être donner quelques petits résultats avant de se quitter. Hein.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors en fait, ce n'est pas vraiment un résultat, mais je vais déjà annoncer mon prochain invité. Mon prochain invité, donc, qui sera là samedi prochain, ce sera Gérard Sastre. C'est le président du Montpellier Rugby 13. Alors, pendant ce week-end là, qui vient, et c'est un grand événement pour le 13 de Montpellier, puisque les Diables Rouges, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui ont retrouvé l'élite de 2, on organise un week-end au stade Sabaté, l'ancien stade du Rugby 15. Ensuite, un peu plus tard, il y aura un grand événement sportif pour les rugbymen à 13, ce sera France-Samoa. Samoa étant une des équipes les plus fortes au rugby à 13, ça sera organisé au mois de novembre, je crois le 11 novembre même, très exactement. Alors donc, si vous avez l'occasion dimanche d'aller faire un petit tour au stade Sabaté, ben allez voir nos rugbymen, pas ceux dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont que 13 sur le terrain. Alors, il y a quelque chose qu'on peut vous dire aussi sur nos résultats. Alors, vous avez remarqué que nos handballeurs ne sont pas trop mal partis. Hein, ils ont été gagnés à Nantes très récemment. Nos rugbymen, ceux d'Aquin, se défendent très bien. Nos footballeurs, j'en parle pas trop parce qu'on va éviter trop d'en parler dans cette émission. Je pense qu'ils ont assez de médiatisation comme ça. On va plutôt s'intéresser à d'autres sports, hein, comme on fait souvent. On donne des fois des résultats des filles aussi. Et nos footballeuses, elles sont bien à Montpellier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Rodolphe? Vous devez intéresser pas du tout peut-être au football, même féminin.
Même féminin,
vous voyez. Alors vous voyez, chacun son sport. Par contre, la semaine dernière, j'avais reçu quelqu'un que vous pouvez peut-être connaître, c'était quelqu'un qui jouait au tennis de table, du Montpellier Tennis de Table. Hein, c'est un sport quand même qui est aussi très, très, très important à Montpellier, qui prend de l'essor. Hein. Ce sont ces sports-là qui nous intéressent surtout, nous ici, à Divergence. Écoutez, on ne va pas faire de grandes lalius et grands résultats cette semaine. On va bientôt terminer cette émission en étant vraiment content d'avoir reçu Rodolphe. Rappelez-moi votre nom, excusez-moi.
Perriot,
voilà. Et on suppose que beaucoup de gens vont s'essayer à ce sport. Je crois que ça va être très bon pour le cœur aussi, non?
Ah oui, tout à fait.
Salut. Les accélérations cardiaques, ça va être excellent. On va se quitter là-dessus. Hein. Je n'ai pas envie de continuer trop sur les résultats cette semaine. Allez, au revoir et à la semaine prochaine. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.